Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant-hier, s'est ouverte au musée Mayol à Paris l'exposition Le Trésor de Naples, qui présente notamment les joyeux napolitains de San Gennaro. Franck Ferrand nous en parle aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est à San Gennaro, dans un richissime ostensoir, que sont réservées les deux célèbres fioles qui contiennent le sang du martyr saint patron de la ville. Nous allons essayer d'élucider ce mystère aujourd'hui en compagnie de mon invité Jean-Loup Champion.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Bertrand qui souhaite connaître l'origine du mot gay pour désigner les homosexuels.
La curiosité de nos auditeurs n'a pas de limite, Céline. Alors pour le moment, nous partons pour Naples, sa baie, son Vésuve, sa magie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
J'ai déjà eu souvent l'occasion de vous dire à ce micro à quel point Naples constituait en soi un univers à part entière, un univers baroque, un univers foisonnant dans lequel nous avons déjà eu la joie de nous promener. Patrizia Nitti, qui est la directrice artistique du musée Mayol, écrit « Cette ville plurimillénaire, construite sur le magma d'un volcan en activité qui flirte chaque jour avec la mort et dialogue avec elle, comme pour tenter de l'apprivoiser. Une ville qui s'est stratifiée et a forgé son identité entre cataclysmes naturels et multiples occupations. Elle a absorbé ses cultures avec voracité et nous les restitue souvent avec ostentation, en faisant cohabiter avec la même force le meilleur comme le pire. » À travers les siècles, les monarques d'Europe sont allés, à titre privé parfois, fréquenter les Napolitains. Ils se sont mesurés aux splendeurs de Naples et ils ont contribué à constituer ce magnifique trésor qui était exposé et dont nous allons parler avec Jean-Loup Champion dans un instant. Ce trésor extraordinaire est une collection d'objets d'art, de pierres précieuses, d'éléments d'orfèvrerie d'une beauté tout à fait extraordinaire. C'est une des plus grandes collections de joaillerie au monde. Elle est tout à fait comparable, elle est historiquement comparable à ce que pouvaient être les joyaux de la couronne de France autrefois. Ce qui n'en reste aujourd'hui, vous savez, n'est que le noyau d'une collection qui a été tout simplement fabuleuse. Pensez aussi aux joyaux de la couronne d'Angleterre, il faudrait parler du trésor des Médicis, etc. On est tout à fait dans ce genre de collection hors du commun. Patrizia Nitti de nouveau. Le trésor de San Gennaro, dit-elle, c'est une valeur vénale inestimable, un extraordinaire témoignage artistique, un consensus européen dès le XIIIe siècle, une dévotion religieuse et en même temps une éclatante force laïque. C'est aussi le génie juridique de l'école napolitaine et la détermination de la députation qui ont permis, à travers les siècles et malgré les turbulences de la ville, l'inviolabilité du trésor dans le respect de sa propriété purement laïque au peuple de Naples. Ça, c'est un des aspects les plus intéressants et c'est l'un de ceux sur lesquels, évidemment, nous reviendrons tout à l'heure avec mon invité. Le trésor de San Gennaro, nous dit Don Ricardo Carafa, est considéré comme un des plus importants du monde, précisément parce que la députation ne s'est pas limitée à rassembler sans réserve les donations, mais qu'elle les a sélectionnées, qu'elle leur a donné une orientation esthétique, qu'elle les a proposées et commandées en suivant une logique artistique sans égale. Il y a donc une cohérence, il y a une âme dans cette collection qui a, dès lors, beaucoup à nous dire. Nous allons visiter, si je puis dire, par la pensée tout à l'heure, cette exposition du musée Mayol. Voilà ce que nous dit Jean-Noël Schifano à propos du saint lui-même, de San Gennaro, Janvier, n'est-ce pas ? Janvier, homme et femme à la fois, dit-il, est le saint de l'androgynie, il est le saint du bonheur d'avant la séparation des sexes. Son trésor vient de là, d'une civilisation entière qui, à Naples et à travers le monde, se met sous la protection, sous le signe hermaphrodite de celui qui abrite du malheur, morts et séparations, peste, guerre, et surtout tremblement de terre et colère du Vésuve, qu'on appelle en napolitain ogeteco, le phtisique, toujours le sang qui secoue la montagne, a montagna, et les foules. Un miracle se produit à Naples trois fois l'an. Vous le savez parce que la télévision vous l'a montré parfois. Vous le savez parce que, tout simplement, cela fait partie du patrimoine vernaculaire, du patrimoine du folklore européen d'une certaine manière. Un phénomène assez extraordinaire de liquéfaction du sang d'un saint, de ce San Gennaro justement, du sang qui est desséché, qui est collé aux parois de l'ampoule qui est présentée aux fidèles, je vais vous raconter ça dans un instant, et puis qui d'un seul coup se transforme en liquide, redevient du sang. C'est un événement inexpliqué. On connaît ce phénomène depuis au moins le XIVe siècle, et grâce à un chroniqueur du Moyen-Âge, on peut savoir qu'il s'est produit en 1389, à l'une des trois dates en question. La chronique est datée du 17 août 1389. Alors, qui était ce San Gennaro? En français, Saint Janvier. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il serait né à la fin du IIIe siècle, en 270, ordonné prêtre au début du IVe siècle. On est vraiment dans les tout débuts hein, de l'Église, évidemment. Il devient évêque. Il est mentionné comme martyr en 305 dans la liste épiscopale de Bénévent. Alors nous verrons tout à l'heure exactement avec Jean-Loup Champion ce que l'on peut savoir de ce San Gennaro. Finalement, les éléments biographiques dont on dispose sont relativement peu nombreux, comme souvent lorsqu'il s'agit de ces saints et martyrs des 3 et 4e siècles. Ce qui est sûr, ce qui semble avéré, c'est que son sang ait été recueilli dans des ampoules. À l'époque, c'était une tradition tout à fait courante. Hein. On recueillait comme ça le sang des martyrs. Souvent, on le recueillait d'ailleurs avec une éponge. En l'occurrence, c'est sa nourrice, Eusebia, qui a recueilli le sang du martyr. Elle en a rempli deux fioles. Ce sont les ancêtres, si je puis dire, des fioles de cristal que nous connaissons. Et il semblerait que, dès lors, ce sang ait été conservé. Dans un premier temps, c'est la nourrice elle-même qui l'a conservé chez elle, à Antignano. Et puis le sang, eh bien, c'est le sang qui se liquéfie régulièrement, trois fois l'an. La tête, le corps et un doigt du martyr sont conservés. Ils ont été d'abord conservés par un aveugle de Pouzzoles qui avait retrouvé la vue grâce à Saint Gennaro. Le transfert du corps du saint à Naples a été l'objet évidemment de célébrations extraordinaires. Les fioles ont été déposées auprès de sa dépouille. Et au IVe siècle, les restes de San Gennaro donc sont transférés. C'est ce que rapporte la geste épiscopale de Naples, hein, qui est une source historique du IXe siècle. Sa dépouille a été déposée dans les catacombes de Capodimonte, donc à Naples, sur ordre de l'évêque de Naples à l'époque. Et on raconte qu'il a été transféré le samedi précédant un premier jour de mai au début du IVe siècle. C'est ce jour-là que le miracle se serait produit pour la première fois. San Gennaro est devenu le saint patron de Naples au fil des ans. Et à chaque fois que la ville était sous la menace d'une catastrophe, évidemment une éruption du Vésuve, mais c'était le cas aussi des pestes, des invasions, des guerres qui ont notamment secoué la ville au XVIe siècle. Rappelez-vous cette lutte évidemment entre Français et impériaux dont Naples a fait les frais, et plusieurs pestes, une éruption au XVIe siècle, eh bien San Gennaro devient le saint patron de Naples. On va lui construire une chapelle au XVIIe siècle, chapelle qui est un chef-d'œuvre du baroque et qui va devenir le théâtre, qui va devenir le cadre de l'un des miracles les plus célèbres de la chrétienté. We'll be right back.
Vivaldi sur Europe 1, un extrait de l'opéra Tito Manlio, c'était Fra le Procelli, interprété par Philippe Jarouski. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au miracle de San Gennaro.
Ce miracle de la liquéfaction du sang de San Gennaro dans ses ampoules de cristal se produit donc 3 fois par an. Une fois le samedi précédent, le premier dimanche de mai, c'est très précis. Ça, c'est la date anniversaire du transfert de la dépouille du saint, hein, c'est ce que je vous disais, dans sa catacombe à Capodimonte. On était là au début du 4e siècle, au moment où se produit le miracle pour la première fois. Le 19 septembre, c'est la date anniversaire de son martyre en l'an 305. Et le 16 décembre, c'est la date anniversaire de l'éruption du Vésuve en 1631. Une éruption qui a été particulièrement importante. Et si elle a fait beaucoup de morts, hein, plusieurs milliers de morts, cette éruption n'a pas fait de morts à Naples, ou quasiment pas. Donc pour les Napolitains, c'est tout à fait extraordinaire, bien entendu. Alexandre Dumas a assisté à ce fameux miracle et il le raconte dans le chapitre 19 de son ouvrage, le Coricolo. Il raconte que quelques jours avant, la surveille précisément, toutes les populations voisines commencèrent à déborder dans la ville, dit-il. Et au milieu de toute cette foule diaprée, joyeuse, dorée, bruyante, passait de temps en temps une vieille femme aux cheveux gris épars comme ceux de la Sibylle de Cumes, criant plus haut, gesticulant plus fort que tout le monde, fendant la presse sans s'inquiéter des coups qu'elle donnait, entourée au reste par tout son chemin de respect, de vénération. Toute la nuit, les cloches sonnèrent à toute volée. Et la veille du miracle, raconte Alexandre Dumas, nous fûmes réveillés à 10 heures du matin par une rumeur effroyable. Nous mîmes le nez à la fenêtre, les rues semblaient des canaux roulant à plein bord la population de Naples et des environs. Toute cette foule se rendait à l'archevêché pour prendre sa place à la procession. Cette procession va de la chapelle au trésor domicile habituel du Saint-Janvier à la cathédrale de Sainte-Claire, métropole des rois de Naples et dans laquelle le saint doit accomplir son miracle. Alors, on assiste évidemment aux côtés, par-dessus l'épaule d'Alexandre Dumas à cette procession. Nous suivîmes la foule, dit-il, et nous allâmes gagner la maison de Dupré. Dupré, c'est Gilbert Dupré, vous savez, le grand ténor français. Il ne faut pas oublier qu'on est à Naples, évidemment, et que la voix et que les vocalises jouent toujours dans cet environnement-là un rôle particulier. Dupré qui demeurait justement sur le passage de la procession et qui nous avait offert place à ses fenêtres, dit-il. Nous mîmes plus d'une heure à faire 500 pas. Il faut d'ordinaire 14 ou 15 heures pour accomplir un trajet d'un kilomètre ou à peu près. Alors, on va passer tous les corps constitués, chaque quartier, etc. Vient l'archevêque, dit-il, porté dans une riche litière et tenant en main les fioles du saint miraculeux. L'archevêque dépose ses fioles dans le tabernacle, puis tout est fini ce jour-là. Sauf les cloches, nous dit Alexandre Dumas, qui continue à sonner à toute volée. Et le lendemain, alors le lendemain c'est très important, et là on est impatient d'assister au miracle lui-même. À 7 heures du matin, nous nous levâmes, dit-il, nous descendîmes nos 2 étages, nous nous arrêtâmes un instant sur la porte, puis nous nous abandonnâmes à la foule et nous laissâmes emporter par le tourbillon. Le torrent nous mena droit à l'église de Sainte-Claire. Le vaste édifice était encombré, mais grâce à l'ambassade française, nous avions eu des billets réservés. Voici le spectacle que présentait l'église. Sur le maître-autel était d'un côté le buste de Saint-Janvier, de l'autre la fiole contenant le sang. Alors il nous décrit les tribunes, il nous décrit notamment ces vieilles femmes qui sont là et qui sont censées être des parentes de Saint-Janvier, qui sont là pour activer en quelque sorte le miracle. On va y revenir tout à l'heure. Au bas des marches, écrit Alexandre Dumas, au bas des marches de l'autel, une grande balustrade où venaient tour à tour s'agenouiller les fidèles. Le chanoine alors prenait la fiole, la leur faisait baiser, leur montrait le sang parfaitement coagulé, Puis les fidèles satisfaits se retiraient pour faire place à d'autres qui venaient baiser la fiole à leur tour et constater de leur côté la coagulation du sang, puis se retiraient encore, cédant la place à leurs successeurs et ainsi de suite. Alors ils vont eux aussi assister, ils vont baiser la fiole, voir le sang desséché, etc. Les foules se succédèrent ainsi depuis le moment de notre entrée, c'est-à-dire depuis 3 heures du matin jusqu'à 8 heures de l'après-midi, écrit Dumas. À 3 heures de l'après-midi, des murmures commencèrent à se faire entendre et quelques mal intentionnés répandaient le bruit que le miracle ne se ferait pas. À 4 heures, il y avait presque une émeute. On trépignait, on vociférait, on montrait des poings. Les chanoines de garde, on avait renouvelé les chanoines d'heure en heure, s'approcha de la balustrade et dit « Il y a sans doute des hérétiques dans l'assemblée, que les hérétiques sortent ou le miracle ne se fera pas ». À ces mots, une clameur épouvantable s'éleva de toutes les parties de la cathédrale, hurlant « Dehors les hérétiques! À bas les hérétiques! À mort les hérétiques !» Une douzaine d'Anglais qui étaient aux tribunes descendirent alors de leur échafaudage au milieu des cris, des huées, des vociférations, etc. Et enfin, dit-il, parce que ça continue encore pendant tout un moment, les cris tumultueux, vociférations, grondements, rumeurs se fondirent dans un rugissement universel dont rien ne peut donner une idée. Alors, les parentes de Saint-Janvier, dont on va reparler, sont là, qui activent, bien entendu, au milieu de ce sabbat infernal, nous dit Dumas. Tout à coup, le prêtre éleva la fiole en l'air, criant « Gloire à Saint-Janvier, le miracle est fait !» Et aussitôt, tout changea. Chacun se jeta la face contre terre. Aux injures, aux vociférations, aux cris, aux clameurs, aux rugissements, succédèrent les gémissements, les plaintes, les pleurs, les sanglots. Toute cette populace folle de joie se roulait, se relevait, s'embrassait, criant « Miracle, miracle !» et demandait pardon à Saint-Janvier en agitant ses mouchoirs trempés de larmes des excès auxquels elle venait de se porter à son endroit.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du miracle de San Gennaro.
Alors j'en entends évidemment et je sais déjà qu'on doit appeler au standard, qu'on doit nous écrire sur Internet. Il y a sans doute des réactions sur les réseaux sociaux, on va voir ça. Parce que, bien sûr, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que, notamment, c'est bien du sang qui se trouve dans ces fioles ? Pour prouver que le phénomène n'était pas une duperie, le cardinal de Naples a fait réaliser des analyses spectrographiques en 1989. C'est le professeur Pier Luigi Baema Bologne, qui est le directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Turin, qui s'est occupé de l'affaire. Et il a découvert que les ampoules contenaient, quoi qu'il en soit, bien de l'hémoglobine. On ne sait pas pour autant si elles contiennent concrètement du sang. Le phénomène, disons-le, est tout à fait inexpliqué. Le sang est une substance organique et ce n'est pas en réchauffant du sang desséché que vous réussirez à le liquéfier. Parce que ça, évidemment, c'est la première réaction qu'on peut avoir. On se dit, il suffit que les ampoules, eh bien, elles chauffent peu à peu et puis comme on les agite beaucoup, comme on les remue, elles pourraient. Mais non, personne ne transformera du sang desséché en sang liquide simplement en chauffant ou en tournant des ampoules, ça je peux vous le garantir. Pour liquéfier du sang coagulé, il faudrait briser la fibrine, hein, cette protéine filamenteuse du sang qui emprisonne les globules. Alors, il faudrait la briser avec de l'alcool, par exemple. Mais le problème, c'est qu'une fois le sang devenu liquide, il ne redeviendra plus du tout solide par la suite. Et surtout, ça ne peut se produire qu'une seule fois. Alors que là, évidemment, le miracle, je vous l'ai dit, il se produit 3 fois par an et devant une foule très importante, qui plus est. Le buste de San Gennaro et les ampoules contenant son sang sont donc portés en procession dans les rues du centre historique de Naples, avec d'autres trésors, les bustes d'argent de ses copatrons, saint Thomas d'Aquin, saint François d'Assise, saint François Borgia, etc. Il y a des lancers de pétales de fleurs depuis les balcons qui ont été décorés de vives couleurs, bien entendu. C'est une très grande fête pour la ville. Ce culte dont je vous parle n'est pas seulement le culte qu'a pu constater Alexandre Dumas au XIXe siècle. Aujourd'hui, bien entendu, il est toujours célébré. Et mieux que ça, à travers le monde, tous ceux qui de près ou de loin peuvent se réclamer d'un certain napolitanisme, tous les napolitains du monde, si je puis dire, et c'est beaucoup de monde, c'est 25 millions de personnes à travers la planète, célèbrent San Gennaro et commémorent le miracle les jours où à Naples sont organisées les fameuses processions. Vous avez notamment des descendants d'émigrés napolitains aux États-Unis, en Australie, en Argentine où ils sont très nombreux, au Brésil, au Canada, etc. Dumas n'est pas le seul à parler du reste de ce miracle. Un certain nombre de nos grands auteurs nous ont laissé des relations. Alors certains se sont montrés un peu dubitatifs. Je pense à Montesquieu, par exemple, qui se rend à... Il faut lire la description du président de Brosse aussi. Mais Montesquieu se rend à Naples en 1728. Il croit avoir assisté au miracle, dit-il. Mais il doute en même temps de la réalité des choses, jusqu'à ce qu'il soit quand même pris par une espèce de ferveur religieuse. Et cette ferveur l'amène lui-même à se poser des questions. Et il écrit « Peut-être y a-t-il un véritable miracle ?» Quand même, c'est Monsieur de Montesquieu qui dit ça. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas du genre crédule, ni facile. Et puis d'autres, évidemment, sont restés plus ironiques. Je pense au marquis de Sade, qui a écrit pas mal sur le phénomène, mais sans y avoir assisté. Il parle, je le cite, de cette barbare ineptie dans laquelle il semble qu'on veuille tenir à plaisir l'esprit du pauvre peuple. Et il voit dans ce miracle les marques des véritables ténèbres de l'ignorance. Alors, qu'en est-il réellement? Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, dans ce studio, nous venions définitivement à bout du grand mystère des ampoules de San Gennaro à Naples. C'est un phénomène qui, je crois, de l'aveu unanime, est assez mystérieux. Certains essaient parfois d'approcher des ampoules, d'élucider le mystère. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai à côté de moi dans ce studio quelqu'un qui a assisté à la cérémonie et le mieux que je puisse faire, c'est de lui céder maintenant la parole. Bonjour Jean-Loup Champion.
Bonjour.
Est-ce que c'est vraiment impressionnant ce miracle de San Gennaro?
C'est très très impressionnant. Moi j'ai assisté là au miracle le plus important, c'est celui du 19 septembre qui se passe à l'intérieur de la cathédrale, dans le cœur.
Alors vous nous avez fait ce qu'on appelle un teasing, vous allez maintenant nous raconter tout ça.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de Stabat Mater. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du Trésor de Naples, avec votre invité Jean-Loup Champion, historien de l'art, commissaire de l'exposition Le Trésor de Naples, les joyaux de San Gennaro, actuellement au musée Mayol et jusqu'au 20 juillet.
Alors Jean-Loup Champion, nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous nous dites que vous avez assisté à l'une des trois cérémonies, celle du 19 septembre. C'est la plus publique et la plus
importante, parce que celle du 19 septembre se passe dans la cathédrale. Celle du 16 décembre se passe dans la chapelle San Gennaro. Et celle que vous venez de raconter avec Alexandre Dumas, avec beaucoup de verve, se passe au monastère Santa Chiara, Sainte-Claire.
Alors, le 19 septembre, la veille, il y a eu la procession, bien entendu. Non.
Alors, je voudrais dire que les choses ont beaucoup changé depuis un siècle. La procession n'a lieu qu'au mois de mai.
D'accord.
Et les autres miracles se passent, si j'ose dire, d'une manière plus intime. Il n'y a pas de procession.
Alors, vous avez vu le sang coaguler, vous?
J'ai vu le sang...
Enfin,
la substance,
disons la substance, pour ne choquer aucun de nos auditeurs. Parce que, est-ce qu'on peut affirmer qu'il s'agit bien de sang au sens propre? Non, hein, c'est la substance.
J'étais placé assez près pour le voir très bien. C'est-à-dire qu'on amène ces ampoules dans ce reliquaire sublime fait par des orfèvres angevins au XIVe siècle, commandé par Charles d'Anjou. C'était les Anjou qui étaient les rois de Naples à ce moment-là.
Évidemment, oui.
Et en effet, la foule et la cathédrale qui est immense est entièrement pleine. Et je crois que pour le spectateur un peu blasé, c'est la chose qui est la plus surprenante, c'est qu'à chaque fois, il y a des milliers de gens qui viennent assister à cette extraordinaire...
Et la cathédrale en question est impressionnante.
Oui, très impressionnante.
C'est un somptueux édifice.
Et c'est le cardinal qui dit la messe. Et on pose sur la balustrade, comme vous l'avez raconté, entre le public et l'autel, le reliquaire, ce qui fait que tout le monde peut le voir et s'approche pour bien vérifier que le sang est coagulé et qu'il s'agit de deux cailloux tout noirs.
Et alors, à mesure, donc, la cérémonie a lieu.
Cérémonie a lieu, et cette fois-ci, ce qui était assez amusant, c'était en septembre dernier, c'est qu'il y avait les anciens rois de Belgique, et Paola, qui est,
Albert,
une princesse,
Paola oui.
Qui est une princesse napolitaine, je crois.
Bien sûr, oui.
Et qui assistait au premier rang à cela. Et pendant toute la messe, il y a comme une sorte de tension qui monte. Il y a quelqu'un qui va voir tout le temps la relique. Et puis à un moment, quelqu'un s'est approché et un des membres de la députation, qui est en habit, a sorti d'un sac brodé un immense mouchoir blanc et l'a agité. Et à ce moment-là, toute l'église s'est mise à hurler, à applaudir, à pleurer. C'était extraordinaire.
Les substances étaient liquides.
À ce moment-là, on a apporté l'ampoule au cardinal qui l'a soulevée et qui l'a fait tourner, comme ça pour que tout le monde puisse voir, de loin en tout cas, que le sang s'écoulait bien et passait d'un côté à l'autre. Et ensuite, ils l'ont approché de l'autel et toute la foule s'est précipitée pour aller embrasser cette relique.
Alors le grand reliquaire, celui offert par les ducs d'Anjou au XIVe siècle, fin du XIVe siècle.
C'est 1305.
1305, voilà.
Donc au tout début, du XIVe siècle.
Ce grand reliquaire, il est évidemment dans l'exposition.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous l'avons obtenu dans l'exposition, mais nous devons le rendre au mois de mai pour 8 jours. Pour la cérémonie.
Mais alors, ce qui veut dire que non seulement vous avez l'objet artistique, mais vous avez également la relique qui a voyagé. Ah non,
la relique
est restée là-bas.
Jamais les Napolitains n'auraient laissé le buste de Saint-Janvier avec son crâne ou son sang venir jusqu'à Paris. C'est déjà un miracle pour nous d'avoir
le reliquaire,
le trésor.
D'ailleurs, un reliquaire qui a été modifié à plusieurs époques, et il y a notamment cette extraordinaire émeraude qui est célèbre par sa taille.
C'est-à-dire que le premier reliquaire date des Angevins, et ensuite on a rajouté au début du XVIIe siècle une base et une sorte de couronne dans laquelle s'inscrit, avec cette énorme émeraude dont vous parlez, et dans laquelle s'inscrit le cristal qui contient les deux burettes.
Alors dites-nous, quand a eu lieu la translation des restes de San Gennaro? Parce que justement, je ne savais plus exactement.
La translation des restes a eu lieu en 305, en fait, peu de temps après, parce qu'il a été décapité sur ordre de Dioclétien. La tête est restée dans un endroit, si j'ose dire, et c'est là où sa nourrice est allée avec une éponge, comme vous avez dit, recueillir le sang de la tête qu'elle a mis dans les ampoules. Ce qui fait que le sang, la tête et le corps ont été séparés pendant des siècles et des siècles, puisque le corps n'est revenu à Naples qu'en 1497.
Ah oui, c'est ça, relativement.
Mais le sang et la tête, ils sont toujours restés. Mais là, vous avez les trois en même temps.
Évidemment, ce miracle est très connu dans toute la chrétienté depuis le début. Énormément de très riches donateurs, de souverains d'Europe ont voulu soit y assister, soit en tout cas y participer par des dons et par des présents absolument magnifiques. Ça, c'est l'origine même du trésor, en quelque
sorte. C'est en tout cas une des origines, parce que ce qui s'est passé avec cette ferveur populaire et la multiplication des éruptions et de la peste. Il ne faut pas oublier qu'en 1656, la peste a fait périr 250 000 personnes, soit plus de la moitié de la population entière de Naples. Ils avaient vraiment besoin d'un protecteur. Et l'éruption du Vésuve de 1531 dont vous avez parlé, le miracle, c'est que la lave s'est arrêtée à Naples parce que on avait apporté en grande procession le buste et les burettes. Et c'est ça le miracle, c'est pour ça qu'on
célèbre aussi une des dates célèbres.
Ce vrai miracle, parce que pour nous, on se demande quel est le miracle, est-ce que c'est la liquéfaction du sang ou est-ce que c'est la protection, justement.
Alors nous viendrons tout à l'heure à tous ces trésors, à cette exposition extraordinaire que vous allez en quelque sorte nous faire visiter, nous expliquer ce qu'on peut voir dans cette exposition du musée Mayol. Avant cela, un dernier mot sur San Gennaro peut-être, avant de lui dire au revoir d'une certaine manière. Qui était-il cet évêque?
C'était l'évêque de Bénévent.
Oui.
Donc la légende dit en effet qu'il était d'une très bonne famille, qu'il est devenu évêque et Dioclétien a, si j'ose dire, lancé à nouveau une persécution énorme des chrétiens. Il y a eu beau. Donc, dans la légende, on dit qu'il, pendant plusieurs jours, on a essayé de le martyriser. L'avant-dernier jour,
Lions ne voulaient pas du tout
on l'a jeté
le
au
dévorer,
lion,
oui,
dans l'amphithéâtre de Pozzuoli, et les lions lui ont léché les pieds. On le représente plusieurs fois. Il y a un grand tableau dans l'exposition de Luca Giordano qui le montre avec un lion en train de lui lécher les pieds. Et le lendemain, On l'a emmené dans un autre volcan, mais qui est un volcan souterrain, qui est la Solfatara. Donc vous imaginez que Naples est quand même entouré de deux volcans. Le Vésuve que vous voyez, la Solfatara, vous marchez dessus, mais vos semelles brûlent et vous voyez les fumerolles de soufre qui passent. Et c'est très très impressionnant et c'est là où on l'a décapité. Le lendemain, puisque les lions, personne ne voulait qu'ils disparaissent.
Et en quoi est-ce qu'on peut considérer que ce saint est androgyne? Je citais tout à l'heure cet historien de l'art qui nous disait, en fait, il représente tous les genres, ce saint
vous,
Janvier.
Si vous le permettez, je suis pas tout à fait d'accord avec Schifano, et que pour moi, c'est au contraire le mâle complet.
Ah ben voilà.
Parce que il y avait à peu près à la même époque une autre personne qui saignait, mais c'était une femme, c'est Santa Patrizia. Et pour les Napolitains, une femme qui saigne, c'est plus courant qu'un homme dont le sang se liquéfie tout le temps. Et je pense que, au contraire, c'est vraiment un mal. Et pour les Napolitains, c'est important.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de l'opéra Sifas, c'était Teche d'Ardere Machendi, interprété par Philippe Jarouski. Nous sommes au cœur de l'histoire du trésor de Naples avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Loup Champion, historien de l'art, commissaire de l'exposition Le trésor de Naples, les joyaux de San Gennaro, actuellement au musée Mayol.
Ce qu'on peut peut-être préciser à l'attention de nos auditeurs, Jean-Loup Champion, c'est que cette magnifique exposition du musée Mayol est totalement mise en scène. Elle est spectaculaire d'une certaine manière.
Il faut citer grâce à un scénographe de très grand talent qui s'appelle Hubert Le Gall, qui a d'abord très bien compris San Gennaro. Je crois qu'il est allé plusieurs fois à Naples. Il a lui-même assisté au miracle. Et je crois qu'il a tellement bien compris que les Napolitains qui étaient là à l'ouverture, y compris le président de la députation, Riccardo Carafa, le duc d'Andria, a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi bien présenté. Donc, il a eu droit à toutes les félicitations des Napolitains, ce qui est important, évidemment.
Cette exposition, elle est aussi pédagogique. Vous avez essayé de recontextualiser les choses. Vous ne présentez pas ces objets, évidemment, de façon neutre.
Il est très important parce que tous les Italiens connaissent San Gennaro, donc Saint-Janvier pour les Français. Et on s'est aperçu que les Français, non. Donc, il était très important de montrer pourquoi ce trésor s'est constitué au cours des ans. Et à mon avis, c'est à cause du Vésuve. C'est à cause des dangers que les Napolitains ont eu besoin d'un saint protecteur. Et c'est pour, en échange de sa protection, qu'ils lui ont construit une chapelle et qu'ils lui ont constitué un trésor. Comment ? Il y a une chose la plus extraordinaire du monde, c'est-à-dire le 13 janvier 1527, le pape napolitain a signé un contrat devant notaire.
Dites bien le peuple, hein. C'est ça, c'est fondamental. Hein.
C'est fondamental.
Représenté par qui ce peuple ?
Représenté évidemment à l'époque par la grande noblesse et par les familles qui tenaient Naples et dont les descendants font encore partie de cette députation qui a été créée après. Donc le contrat est signé en 1527, nous avons d'ailleurs le fac-similé qui est montré dans l'exposition et on dit très précisément, alors il parle plus de la peste parce qu'à l'époque on sortait encore d'une autre épidémie de peste extrêmement meurtrière, mais que contre tous ces fléaux, donc le peuple de Naples s'engage à construire une chapelle dans la cathédrale et à lui constituer un trésor. La chapelle dont vous avez parlé a été consacrée au début du 7e siècle, ça a pris longtemps pour la construire, c'est un immense chef-d'œuvre.
Oui, il faut le dire avec cette coupole extraordinaire.
Cette coupole extraordinaire. Donc, ça a été constitué par de très 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 nombreux cadeaux, donc beaucoup d'objets liturgiques. La grande époque, c'est le XVIIe siècle. Pourquoi le XVIIe siècle? Parce que d'abord, c'est la contre-réforme, c'est l'époque où le catholicisme est triomphant, donc, et on croit beaucoup à l'art, c'est-à-dire, et au théâtre, parce que l'art du baroque est très théâtral. Et les églises sont présentées un peu comme des théâtres.
Ce trésor, d'une certaine manière, il est donc un peu autonome. On peut dire, hein, il n'est pas le trésor d'un souverain, il n'est pas le trésor d'une congrégation religieuse, il est un trésor...
C'est un trésor laïque.
Laïque, voilà. Laïque.
Il appartient à cette institution qui s'appelle la députation.
Oui, voilà.
Et vous savez que pendant 4 siècles, l'Église a essayé de récupérer ce trésor. Il y a eu de très nombreux procès, la députation a tenu bon. La députation gère toujours le trésor et c'est la députation qui nous l'a prêté. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, les Napolitains trouvaient qu'un saint protecteur, c'était bien.
Mais c'était pas suffisant.
Voilà. Et qu'ils auraient aimé en avoir d'autres. Ils ont donc proposé d'avoir d'autres saints protecteurs. Et la députation, qui commençait à constituer ce trésor, a dit à chaque fois qu'une congrégation, qu'une église, qu'un ordre religieux, que des particuliers auraient aimé qu'un de leurs saints deviennent un saint protecteur, on leur a répondu « Oui, mais vous faites d'abord, vous faites faire un buste en argent massif de grandeur nature. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons, entre la chapelle, la sacristie dont vous parlez, il y a 51 bustes de saints protecteurs, Naples protégés par San Gennaro, plus 51 collègues.
Extraordinaire.
Dont on a des exemples extraordinaires, puisqu'on a fait venir 15 bustes, et certains de ces bustes sont portés à bras d'homme pendant la procession dont vous parlez au mois de mai.
Alors il y a des bustes au sens propre, hein. J'ai Sainte Thérèse d'Avila sous les yeux, Sainte Euphèbe, Saint Athanase, etc. Et puis alors il y a carrément, par exemple Sainte Irène, c'est quasiment une statue complète dans
Irène,
son cas.
C'est une des plus belles, et vous avez raison, c'est un chef-d'œuvre de Schisano qui date de 1733. Et Sainte Irène, elle protège de la foudre. Et elle a la main qui est transpercée par les rayons de la foudre, comme les rayons du tonnerre. Et elle protège un plan en 3 dimensions de Naples. Et tout cela est en argent massif, bien entendu.
Argent et vermeil, en fait, hein, c'est ça. Hein.
Et elle est tenue par un angelot. Et c'est absolument, absolument extraordinaire.
Et le Saint-Michel Archange, alors lui, il est carrément debout, il est sublime, il date de la fin du XVIIe siècle. C'est un...
De la fin du XVIIe siècle, vous avez tout à fait raison. Et lui est encore plus extraordinaire parce que c'est la réunion de tous les arts, parce que c'est donc Saint-Michel Archange qui terrasse le dragon. Et c'est un grand peintre qui l'a dessiné, c'est Luca Giordano. C'est un sculpteur qui l'a fait, qui s'appelle Vaccaro, donc les plus grands. Et un orfèvre extraordinaire qui s'appelle Vinascia, qui l'a achevé.
Rien que ces bustes auraient à eux seuls justifié une exposition. On est bien d'accord.
Oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chants. Et je pensais qu'il était important que les gens n'imaginent pas qu'il s'agissait uniquement des bijoux de la couronne de San Gennaro.
C'est ça, voilà.
Qui évidemment sont la chose la plus étonnante.
Ah ben parce qu'alors le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont d'une richesse, d'une somptuosité absolument extraordinaire.
Je pense qu'on y viendra, mais je pense aussi que si la députation et les Napolitains ont accepté notre offre de les faire venir à Paris.
C'est parce qu'il y a toute une dimension artistique en plus.
Exactement, et qu'ils savaient qu'on respecterait, non seulement qu'on respecterait, qu'on serait là pour rendre compte de Naples. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez lu le président de Brosse arrive et dit « Naples est la seule capitale, après Londres et Paris, c'est la seule capitale où il y a des carrosses, où on rit, où on chante. Rome, c'est rien ». À côté, il était très violent.
Ah oui, mais...
Donc on oublie un peu maintenant que c'était...
Voilà, ah oui, tout
et d'une richesse, puisqu'évidemment, ça appartenait aux Espagnols. Les Espagnols ont pillé l'Amérique latine, dont tout cet argent dont vous me parlez vient des mines de Bolivie et d'Argentine. Les émeraudes, elles viennent aussi de... Là-bas, donc, toute l'Amérique latine s'est déversée.
On va y venir aux émeraudes, mais pour rester sur toutes ces grandes œuvres, ces sculptures extraordinaires, il faut dire que les Parisiens sont très gâtés. Ils avaient l'année dernière à Versailles l'exposition des trésors du Saint-Sépulcre, qui était quand même une vertigineuse exposition. Et là, j'allais dire, on remet ça avec ce trésor de San Gennaro de Naples. Il y a en Europe, combien de concentrations de merveilles de ce niveau-là? Il y en a très peu, finalement.
Très peu, et celle-ci est tellement étonnante, parce que quand vous parlez des bijoux de la couronne et tout ça, là, il s'agit de la couronne d'un saint, qui a été martyrisé en 305. C'est ça qui a été extraordinaire. Non seulement ça a été constitué autour de cette seule entité, mais surtout dans un pays quand même qui a été très dangereux pendant très longtemps, il est resté intact. Et tous les envahisseurs...
Et protégé par cette fameuse députation, toujours.
De cette députation. Mais aussi, tout le monde dit, d'ailleurs, que les Napolitains ne se voleraient pas eux-mêmes, puisqu'ils considèrent à raison que ce trésor leur appartient. Donc, ils ne vont pas aller se voler eux-mêmes.
Et comment entre-t-on à la députation ? Il y a une cooptation ?
Il y a une cooptation parmi les... Bon, il y a toujours eu deux sièges qui sont réservés au peuple. Mais aujourd'hui, le peuple, c'est le maire de Naples, et puis je crois que c'est quelqu'un de très important qui a l'autre siège. Le reste, vous retrouvez le nom des familles les plus fameuses depuis l'origine.
Les familles qui ont évidemment compté pour beaucoup dans les donations, elles ont été très généreuses, mais il y a des dons qui viennent de loin aussi. Les plus grands mécènes du continent ont participé à la splendeur de San Gennaro.
Alors on se demande si ce sont des mécènes ou des envahisseurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau régime arrive, parce que Naples a été envahi par tout le monde, et je crois que ces envahisseurs ont été très intelligents et ils ont compris qu'il fallait se faire accepter par les Napolitains, donc se faire accepter par San Gennaro.
Alors,
donc les Anjous ont commencé, mais par exemple, quand, vous savez, Joseph Bonaparte est devenu roi de Naples, il a offert une croix extraordinaire en diamant et en émeraude. Très vite, Napoléon l'a appelé sur le trône d'Espagne. Murat est venu, et lui, il a fait mieux parce qu'il a offert un gigantesque ostensoir en vermeil recouvert de rubis.
C'est à qui se montrera le plus généreux avec ça, c'est incroyable.
C'est très très impressionnant.
Quelle ostentation extraordinaire.
Tous les rois, les papes,
Et alors là, vous mettez le doigt justement sur ces joyaux qui sont étourdissants. J'ai sous les yeux, évidemment, je feuillette le catalogue tout en vous parlant, mais une croix épiscopale avec des émeraudes et des diamants, mais d'une taille phénoménale. La mitre de San Gennaro qui est constellée d'émeraudes, elle. C'est tout à fait invraisemblable.
Je crois que c'est sans doute le plus grand chef-d'œuvre de l'exposition. Et qui, elle, a plusieurs histoires. D'abord, elle a été commandée par la députation dont on parlait. Et elle a été livrée en 1713. C'est Matteo Trellia qui était le plus grand orfèvre de l'époque, mais qui a fait venir évidemment des pierres, justement, comme on disait, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque il y a plus de 3000 diamants, environ 200 émeraudes et 200 rubis. Et les rubis sont très importants parce que, on n'en a pas parlé encore, mais toutes les pierres ont une signification et les couleurs ont une signification. C'est-à-dire que le vert de l'émeraude, c'est l'éternité et le pouvoir. Le rouge, c'est le sang du Christ, c'est le sang de San Gennaro, mais c'est aussi la lave du Vésuve. Et un des rubis est surnommé la lave du Vésuve. Et enfin, le diamant, c'est la foi et c'est la connaissance.
Si vous voulez voir toutes ces merveilles, cette accumulation, ce trésor extraordinaire, il vous suffit d'aller au musée Mayol jusqu'au 20 juillet prochain. Jean-Loup Champion est le commissaire de cette exposition « Le trésor de Naples, les joyaux de San Gennaro ». Merci beaucoup de nous avoir fait visiter l'expo.
Merci beaucoup, Franck.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Bertrand, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait connaître l'origine du mot gay pour désigner les homosexuels.
C'est une question intéressante que pose Bertrand et, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça n'est pas si facile d'y répondre. Parce que, bon, bien entendu, on connaît le sens du mot « gay » en français. C'est ce qui est joyeux, c'est ce qui est léger, bien entendu. Ça s'emploie encore aujourd'hui. J'ai fait un très gay dîner, ça ne signifie pas forcément que c'était un dîner homosexuel. Mais c'est vrai que le terme, via le monde anglo-saxon et les États-Unis en particulier, nous est revenu avec cette très forte connotation. Ce qu'il faut dire, c'est que, dès le XVIIe siècle, ce terme de gay est associé parfois à l'idée de plaisir. Le gay, l'homme gay, c'est celui qui ne se soucie pas des règles morales ou qui s'en soucie peu. Une maison gay, par exemple, au XVIIe ou XVIIIe siècle, ça pouvait vouloir dire une maison close. Mais attention, ça n'était pas associé à l'idée spécifique d'homosexualité. Jusque dans les années 20 et 30, on utilise ce terme pour décrire un mode de vie, disons, assez insouciant, sans contrainte et qui évidemment peut aller jusqu'à une volonté de passer outre la morale sexuelle. En langage vulgaire, le mot gay, qui d'ailleurs en français autrefois s'écrivait G-A-Y, fait référence au sexe d'un homme, et le verbe to gay, en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, voulait dire coucher avec quelqu'un. Donc vous voyez qu'il y avait cette connotation sexuelle, mais encore une fois, pas une connotation homosexuelle. En 1934, le film The Gay Divorcee parle d'un couple hétérosexuel, par exemple, et en 1941, un autre film, The Gay Falcon, avec George Sanders, évoque un gentleman détective anglais qui a un faible pour les jolies femmes, et non pas pour les hommes. Et puis, évidemment, le terme a beaucoup évolué. Dès les années 30, on le voit apparaître, ce terme, avec une connotation déjà homosexuelle. Dans L'impossible Monsieur Bébé, en 1938, Cary Grant explique qu'il devient gay à tout coup. Or, c'est une séance où on le retrouve dans une tenue féminine garnie de plumes. C'est donc un terme qui peu à peu va prendre cette connotation. Et à partir de la création de la Gay Pride en 1969, alors là oui, le mot prend le sens actuel. Il n'est pas encore populaire, mais il commence à prendre ce sens. Et certaines associations homosexuelles aux États-Unis voulaient d'ailleurs voir dans ce terme l'abréviation de « We are as good as you », c'est-à-dire « Nous valons ce que vous valez » d'une certaine manière. Le mot « gay » est devenu peu à peu l'ambiguïté de la communauté homosexuelle, mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on l'emploie, c'est dans un sens qui n'est pas spécifiquement sexuel. Très souvent, c'est plutôt un mode de vie, c'est plutôt une façon d'être et de penser qui se trouve ainsi désignée. Question subtile qui appelait une réponse assez complexe, je le reconnais.